Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis. Avec Yoann Durand, notre marathonien.
Des bons plans d'ossard et des défis, et des comme s'il en pleuvait. Toutes les semaines, on repart au charbon.
Et c'est vrai qu'on vous régale toutes les semaines.
Ah, toutes les semaines.
Vous pourriez nous dire merci. Non, je plaisante parce qu'on reçoit beaucoup de remerciements.
C'est vrai.
Et d'ailleurs, Yoann, on remercie toute la communauté RMC Running parce qu'on vient de réaliser le record historique, record pulvérisé sur le mois d'août. Au niveau du nombre d'écoutes, donc merci
c'est
à tous.
Nouveau record.
Et voilà, et ça nous incite.
Et les records sont faits pour être battus, donc
exactement.
Ce mois-ci, on va essayer d'être encore meilleur pour le battre.
Exactement, ça nous motive à continuer, et vous le savez, si vous appréciez RMC Running, vous nous suivez sur Strava, sur Instagram, sur Twitter, et vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement. Une nouvelle championne avec nous cette semaine. Dans un instant, on va recevoir la néo-détentrice du record féminin de la traversée du GR20. C'est le mythique sentier de grande randonnée qui traverse la Corse du nord au sud. C'est considéré comme l'un des plus durs d'Europe. Anne-Lise Rousset-Séguré est avec nous. Elle n'est pas seulement traileuse de haut niveau, elle est également vétérinaire et maman d'un petit Faustin qu'on embrasse. On pourra parler de tous ces sujets parce que la séance va être adaptée à son profil, Yoyo. La gestion du temps au quotidien, comment fait-elle justement pour concilier vie de famille, vie professionnelle et pratique sportive? Là, faut être costaud quand même.
Ça, c'est la difficulté pour tous les coureurs qui sont pas professionnels de trouver le temps, l'équilibre avec la famille et puis les entraînements qui prennent du temps, surtout quand c'est des distances comme le GR20. Toi,
Te
plains quand je te mets 3 fois 3000 alors qu'en 30 minutes, c'est bouclé.
Alors, méfie-toi, tu verras qu'Anne-Lise fait pas mal de pistes hein, et des courses entre midi et deux. Donc, tu vas voir, la méthode d'entraînement est pas mal. D'ailleurs, bon plan d'ossard, l'opération Niscan continue. On va retrouver deux membres de la team RMC Running, Julien qui va effectuer son premier marathon et Louis qui souhaite passer sous la barre mythique des 3 heures. Ils seront avec nous dans la deuxième partie. Je rappelle qu'il y a 40 dossards supplémentaires mis en jeu. Il en reste quelques-uns, profitez-en. Vous pouvez candidater sur nos réseaux sociaux. Et puis, nouveau cadeau cette semaine, on aura 3 dossards à faire gagner, Yoann, pour la course Enfants sans cancer. Ça va se dérouler le 25 septembre dans le domaine de Saint-Cloud. On sera avec Maxime, qui est responsable communication de l'association Imagine for Margot. Évidemment, il va nous expliquer tout ça. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour RMC Running.
En tout cas, si je fais une nouvelle vidéo sur la Corse, c'est pour vous partager les 10 choses qui la rendent vraiment unique, incroyable à mes yeux.
Vous avez eu un coup de cœur pour un exploit sportif hors norme. Il s'agit d'Anne-Lise Rousset. Elle vient de parcourir les 170 km du GR20, le chemin de randonnée qui traverse la Corse, en 35 heures 50 minutes.
C'est de la fatigue, une grosse fatigue. Et une joie immense.
C'est la première femme à passer sous la barre des 40 heures et elle passe très largement en dessous.
Je me sens pas très bien, comme un lendemain de soirée très 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 arrosé, je sais pas. Non, j'ai mal partout.
Ouais, c'est un projet un peu fou qui tient à la fois de l'exploit sportif, du dépassement de soi, de la lutte contre l'épuisement et de l'adaptation aux lois de la nature.
Anne-Lise a eu la chance d'avoir une grossesse qui s'est très très bien passée, où elle faisait encore le cavé de Chamonix la veille d'accoucher.
Mais sur les chemins escarpés et ô combien techniques des montagnes corses, avec des dénivelés à couper le souffle, des pièges et des changements de température qui mettent le corps à rude épreuve, ça ajoute quelques majuscules à l'exploit.
C'est magnifique comme l'île de beauté.
Allez,
eh oui, une record woman du monde est avec nous cette semaine, Yoann Durand. Anne-Lise Rousset-Séguré, traileuse, et donc celle qui a battu le record de la traversée du GR20. Salut Anne-Lise.
Salut tout le monde.
Comment ça va?
Et merci. Eh ben ça va bien,
Ça va très bien.
Alors, Anne-Lise, immense championne, et ce sourire si singulier qu'on perçoit même à la voix, c'est quand même assez dingue. C'est ce qui te caractérise. Hein. Dès qu'on voit une interview de toi, il y a ce sourire qui arrive et c'est quand même hyper agréable. Anne-Lise, on aura le temps de revenir sur ton exploit donc réalisé au mois de juin dernier, cette traversée record du GR20. Mais on pose toujours la même question pour démarrer un podcast avec Johan. Tout simplement, pourquoi tu cours, Anne-Lise?
Parce que j'aime courir. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose pas vraiment souvent en fait, mais l'effort, je pense que bon, c'est vrai qu'en plus nous on a la chance de courir dans des paysages qui sont assez incroyables à chaque fois, mais au-delà de ça, il y a déjà le goût de l'effort quoi, le fait de courir en fait. Je crois que c'est ça qui me motive et que j'aime ça.
Alors, je vais prolonger la question. Lorsqu'on partage la vie du sélectionneur de l'équipe de France de trail, est-ce qu'on est obligé de courir?
Ben, je pense un petit peu quand même. Non, ben forcément, on s'est connus et on s'aime pour ça aussi. Donc, je pense que oui, ça fait partie de notre vie aussi à tous les deux. Donc, quelque part, et puis c'est lui qui me fait courir, ça c'est sûr.
Voilà, c'est ça. T'imagines, Johan, la valise chez les Rousset Séguré, c'est les bâtons, les baskets, voilà, évidemment le camelback, et puis c'est parti, quoi, on y va.
La totale pour 40 heures de. 40 heures d'effort.
Alors, Johan, on le disait, toi, c'est pas forcément ta distance et ta spécialité, le trail comme ça à très haut niveau. Qu'est-ce que ça t'inspire, un exploit réalisé comme celui qu'a réalisé Anne-Lise au mois de juin dernier?
Bah, c'est quelque chose de magnifique, hein, quand on voit les. Alors, j'imagine la dureté de l'effort, mais quand on voit les paysages de la Corse sur les photos, sur les quelques images que j'ai vues, c'est presque allier le côté plaisir de la course et le côté découverte de l'île de beauté et de c'est pour ça que le trail a ce côté majestueux que la route n'a pas toujours, à savoir quand on en prend plein les yeux, c'est-à-dire que même sur 40 heures d'effort, elle a dû se régaler par moments parce qu'elle est passée par des endroits merveilleux et que à un moment donné, quand t'es dans le dur, tu te raccroches à des trucs. Et certainement que, je sais pas, un coucher de soleil, un lever de soleil, un truc, une vue sur la mer, une vue à la montagne, lui a permis de s'échapper un peu et d'oublier un peu la dureté de l'effort pour juste être là pour kiffer le plaisir de l'instant T. Et ça, c'est vrai qu'en trail, c'est quelque chose de chouette. Et j'ai l'impression, enfin, moi, je suis juste allé en Corse pour faire la fête, mais j'ai l'impression que l'île de beauté mérite de la traverser. Ouais.
Mais je t'emmènerai, mon vieux, après 2024, le marathon olympique. Et tu sais quoi, on se lancera le défi du GR. Pourquoi pas?
Ouais, non, mais franchement.
Oui, toi, ça peut te chauffer quand même, bien sûr.
Moi, complètement, bien complètement. Ouais. Je suis pas non plus qu'un coureur dormeur et qui fait rien.
On se fera coacher par les Rousset Séguré, voilà. Ça, ils nous feront le plan de la piste.
Avec plaisir. Avec plaisir.
Le rendez-vous est pris, du coup. Allez, on attaque le CV de coureur d'Anne-Lise.
RMC.
Le CV de coureur.
Tu as quel âge, Anne-Lise?
J'ai 34 ans.
Et tu cours depuis quand alors?
Ben, vraiment, je cours et je suis entraînée vraiment depuis 2013. Avant, c'était plus... j'ai attaqué assez tard, en fait.
Intéressant.
Avant, c'était plus... par plaisir de courir, mais sans
jogging,
entraînement
sérieux. Du
loisir.
Ouais,
exactement.
Tu cours combien de fois par semaine, en moyenne?
Ben, en moyenne, c'est 7 à 8 fois, quand même.
Ah oui. Ça représente combien de kilomètres, en moyenne, là aussi?
Alors, ça dépend vraiment. En moyenne, c'est une centaine de kilomètres. Ça peut être plus parce qu'il y a des gros blocs d'entraînement. Comme ça peut être moins parce que, alors, il y a un peu de vélo, même si j'en fais pas assez parce que je manque de temps. Et il y a de la muscu. Donc, la muscu, forcément, du coup, ça rentre pas dans les décomptes des kilomètres. Mais c'est assez irrégulier parce que c'est vraiment fractionné en gros blocs, en fait.
Non, mais ça va être intéressant d'en parler avec toi parce que la muscu a une place très importante dans ta préparation. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui t'a aidé à tenir cette cadence parce que tu n'es pas fan de musculation et pourtant tu en as fait pas mal durant la prépa. Tu t'entraînes quand alors? À quel moment de la journée?
Alors quand je travaille, c'est entre midi et deux. Et le soir, sinon c'est une fois que le petit est couché. Et après, par contre, quand j'ai une journée de repos, un après-midi de repos, j'essaye forcément de caler quand le petit dort pour minimiser le temps sans lui, parce que quand on devient maman, on devient un petit peu obsédé du bébé. Mais sinon, après, par contre, quand j'ai les journées libres, on s'adapte et on s'organise tous les trois, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que j'ai du mal à m'entraîner très tôt le matin, comme certains le font, donc c'est plutôt entre midi et deux et le soir.
Ah, tu connais pas ça, hein, mon petit Johan. Hein. Attendre que le bébé s'endorme pour aller courir, voilà, quand il veut pas dormir à 22h. Ah oui, tu connais pas ça encore, tu vois, mon vieux.
Oh là là.
Bon, évidemment.
C'est ton excuse, toi.
Ouais, c'est ça, peut-être. Alors, le dernier exploit, évidemment, réalisé, c'est cette traversée record du GR20. Quelle sera la prochaine course, Madame Rousset-Séguré, alors?
Alors, normalement, je vais sur la Diagonale des Fous, là, mais qui approche à grands pas. Je dis normalement, parce que bon, je me prépare pour, j'essaye de faire ce qui est au mieux, mais c'est pas si simple que ça, la reprise. Bon. Donc, voilà.
On aura le temps d'en reparler. Du coup, Annelise ouais. Rousset-Séguré est en direct avec nous cette semaine. On est ravis de t'accueillir. On voulait t'inviter, évidemment, depuis que tu as réalisé cet exploit à la mi-juin. On t'a laissé respirer un peu, hein, reprendre des forces, parce que c'est vrai que c'était...
Allez, en vacances.
Voilà, c'était très exigeant. rappelons d'où tu viens. Tu as grandi dans une région déjà vallonnée, hein, le Cantal. Alors là, c'est pareil, c'est le paradis des trailers, parce qu'il y a des montagnes dans tous les sens. En revanche, t'es pas issu d'une famille hyper sportive, quoi. Le sport est pas au centre de votre vie familiale, quoi.
Et non, même assez loin de là, finalement. C'est vrai que mes parents n'ont pas cette culture-là du sport et ça, des fois, a été un peu compliqué, d'ailleurs, à intégrer dans la famille parce que voilà, c'était pas une priorité en soi pour eux. Donc, il a fallu le faire comprendre aussi que ça pouvait être important, la course à pied.
Et ouais. Alors, je crois que ton premier amour, c'est l'équitation, c'est ça ?
Ouais. Depuis que je suis toute petite, je fais du cheval. Alors pareil, j'ai jamais fait de grosses compétitions. C'était vraiment à petit niveau, quoi. Mais depuis que j'ai 5 ans, je fais du cheval. Après, j'avais mon petit cheval à la maison, mais sans pareil, sans vraiment ambition compétitrice, quoi. C'était plus parce que j'adorais ça, quoi, et je montais à cheval.
C'est flippant. J'ai bossé. J'ai l'impression d'être Michel Drucker. Je connais toute sa vie déjà, Annelise.
Ah ouais, il a tout fait.
Ouais, c'est ça, ça fait un peu bizarre.
Ouais,
en fait.
Désolé, rassure-toi, ça s'arrête là.
C'est un bon journaliste, hein.
je suis pas allé plus loin. Alors, je le disais,
c'est parfait.
La particularité de ton profil, c'est que, bon, évidemment, en tant que trailer, t'es plus attiré par la montagne que par la route. Même si tu fais un peu de route et un peu de piste, hein, on pourra en reparler, mais tu fais pas mal de séances, finalement, d'entraînement, de VMA, de 6x1000, de genre de choses, quoi, Annelise.
Bah oui. Alors, c'est plus en partie hivernale, en fait, où on fait des grosses prépas de vitesse, des fois, ça arrive qu'on fasse les crosses aussi en saison. Alors, je suis pas fan absolu, même si j'aime la vitesse, finalement, j'aime bien quand on va sur la piste et qu'on fasse vraiment de la vitesse pure, ça me plaît. Après, voilà, on en fait, c'est plus spécifique quand vraiment on rentre en saison trail, donc on fait moins de pistes, des 400, les 1000, mais bon, j'en fais quand même, ouais, ça, on en fait quand même pas mal, hein.
Bon, et puis après, on le disait, donc, tu as poussé un bon cursus scolaire qui t'a mené sur des études de vétérinaire, et puis, ce moment qui change ta vie, évidemment, un petit raid dans le Lot en 2009, et cette rencontre avec Adrien Séguré, qui va bouleverser ta vie et ta pratique sportive, évidemment.
Bah, complètement, ouais. Mais décidément, tu sais quand même beaucoup de choses.
Bon, bah, ça, c'était pas trop compliqué. Mais on rappelle donc que Adrien Séguré, ton compagnon et le papa du petit Faustin, est désormais entraîneur de l'équipe de France de trail et qui, lui, évidemment, est un grand sportif. C'est lui qui t'a donné le virus, comme ça, de la course en montagne?
Oui, complètement. Oui, c'est lui qui me l'a fait découvrir aussi tout ça, parce que je savais que j'aimais courir, mais déjà c'est vrai qu'en 2013, enfin même un peu avant, le trail n'avait pas cette médiatisation qu'il y a aujourd'hui. On en parlait moins, on savait pas exactement ce que c'était que le trail. Donc ça a été progressif, mais c'est clairement lui, oui, qui m'a fait découvrir tout ça et qui m'a permis de faire ça, parce que j'aurais jamais imaginé être capable de le faire et de me préparer pour ça. Donc sans lui, c'est clair que rien n'aurait été réalisé.
Alors,
c'est sûr.
J'aimerais bien avoir tout de même une petite coulisse, parce que ça va nous intéresser avec Johan. Il devient ton compagnon, donc une histoire d'amour née entre vous. Mais est-ce que l'entraîneur qu'il va devenir détecte le potentiel de sa compagne et sa championne? À quel moment il te dit « Ah, quand même, tu t'en sors pas mal, quoi ».
En fait, on s'est connus parce que lui était raider, donc il faisait du raid multisport. Et à bon bah au niveau, il faisait les coupes du monde en fait de raid. Et à ce moment-là, c'est toujours trois mecs et une fille. Et les filles, ils en trouvaient pas tant que ça. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'étais rentrée à l'école vétérinaire et je reprenais un peu le sport. Et nous, dans notre petite pratique sportive qu'on pouvait avoir à l'école, en fait, on faisait des raids multisports. Et c'est pour ça que moi, je le faisais sur raid multisports, en fait, dans le Lot avec une copine sans ambition du tout, qu'il y a ce fameux Adrien qui nous a contactés toutes les deux derrière, par la suite, en fait, suite à ce raid. Et pas du tout pour... Alors, au début, je pensais que c'était une embuscade, mais a priori, but c'était pas pour ça. C'était vraiment en fait pour me recruter en fait en tant que raider dans leur équipe. Donc en fait au départ on s'est connus donc en 2009 totalement pour le sport.
D'accord.
Et c'est plus tard qu'on s'est en 2013 en fait qu'on est voilà que de copains de très très bons copains c'est un peu basculé c'est un peu dérapé. Okay. Mais sinon jusqu'avant c'était vraiment pour le côté sportif et il a commencé du coup à m'entraîner pour justement intégrer leur équipe de raid et après voilà me mettre au trail par la suite. Ouais.
Non mais pardon mais tu as perdu un peu de temps parce que 2013 tu te mets en couple avec lui, 2014 tu gagnes la CCC à l'UTMB. Donc il fallait te mettre en couple plus tôt, tu aurais un palmarès plus fourni.
La vie fait que c'était, oui. C'était après qu'on.
Non mais c'est dingue.
Mais c'est dingue. Non, c'est.
En un an d'entraînement et de prise en charge évidemment de vie de couple, il t'a mené sur des niveaux de performance hallucinants. Johan, on rappelle donc la CCC, c'est quand même un truc de dingue puisque c'est 100 km, Courmayeur, Champex, Chamonix, 6100 mètres de dénivelé. Là, faut déjà être costaud, ouais. Johan, pour brûler ce genre d'épreuve. Hein.
Après, pour revenir à leur relation, on parle souvent que la vie est faite de rencontres, les phrases oui. bateau comme ça. Mais clairement, quand un athlète trouve un entraîneur qui lui correspond, bah, des fois, c'est plus du tout le même athlète. Hein, je le vois. Et inversement, quand ça fonctionne plus, il y a un athlète, les athlètes arrivent plus à mettre un pied devant, alors que c'était des très bons athlètes. Il y a des choses comme ça qui font qu'on ne maîtrise pas. Et là, ils se sont trouvés et elle a eu confiance en lui. Lui, il avait le plan parfait pour la faire progresser. Il savait comment l'amener au sommet. Et ouais. en un an de travail, bah, ça, ils ont basculé et c'est beau. Et que ça dure encore, c'est magnifique. Ouais.
Ouais. Ça fait combien de temps que tu bosses avec ton coach, Johan?
Moi là ça fait un an et demi et tout de suite ça a matché parce que c'était une façon de travailler complètement différente de ce que je faisais avant et du coup bah c'est vraiment ce que j'avais la sensation d'avoir besoin et du coup ça a matché tout de suite et tout de suite il y a eu les résultats et après à partir du moment où ça matche tout de suite et que vous avez les résultats bah, la confiance est là et après c'est tout de suite plus facile de construire des choses. Ouais. Il faut voir après sur le long terme et avec les premiers accros. Mais là, pour l'instant, avec mon entraîneur, on a une relation qui fonctionne très bien. Ouais.
Et puis, donc, je le disais, tu t'es pas interdit de faire un peu de route. Tu as des records perso qui sont assez élevés. Je crois que tu es passé sous les 1h15 au semi-marathon, Annelise, hein, quand même, comme ça, à l'entraînement. C'est ça?
Ouais, alors après, j'en fais très peu de route.
Ouais.
j'en fais pas beaucoup. J'avais fait des semis, je crois que j'en ai fait que deux. Et ouais, c'est vrai que ça s'était bien passé. C'était sur des championnats de France. À Bourg-en-Bresse que j'avais fait ce chrono et après sur 10 j'en ai pas fait beaucoup des 10 voilà je dois être en 34 de je sais plus combien.
Ah, pardon. Donc,
ouais non c'est après c'est chouette d'en faire un petit peu.
Bah c'est vraiment bien pour
après,
quelqu'un
j'avais...
qui vient
bah oui c'est vraiment bien
sans base de vitesse
non, puis, elle le dit pas mais allez voir sur Strava quand vous regardez statistiques sur marathon elle a fait un petit marathon de Paris en 2018 en 2h50 histoire de voir les monuments quoi comme ça.
Ouais, mais là pour le coup, c'était pas une très bonne expérience en fait.
Ah ouais?
Avec le marathon, ben en fait, je trouve que la prépa, elle est, enfin c'est pour ça chapeau Johan, mais c'est vrai que c'est dur cette prépa marathon. C'est tellement, j'aime faire du seuil, ça me plaît, mais en plus nous on s'était préparé en Aveyron, donc du plat il y en a, mais il y en a pas partout non plus.
Ah.
Donc c'est très monotone, toujours ces séances de tempo, ah ouais. de vitesse imposée, ah ouais. c'est fou là 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 là, toujours au même endroit, toujours.
Ah non, bah,
j'avais trouvé ça très 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 dur. Enfin ouais, j'avais pas trop aimé la prépa et l'expérience marathon, ça s'était pas très bien passé. Enfin, j'avais pas trop aimé. Alors y revenir, pourquoi pas m'y repréparer un jour, mais c'était pas une très très belle expérience le marathon sur route.
Bon.
Donc ouais, je plus tard peut-être, après faire un petit D-Born, faire un semi, ouais, allez, de temps en temps, je vais bien.
Ah, pour toi, c'est de la rigolade. Quoi.
Ouais. Ouais, c'est du sprint.
Non, c'est dur justement, c'est assez ingrat comme prépa.
Ouais, c'est des
efforts
différents. Ouais, c'est
je trouvais que ouais, complètement. Ouais. Ah ouais. Non, c'est totalement différent, mais c'est après c'est chouette aussi de goûter un peu à tout ce que la course à pied peut proposer.
Il y a pas mal de belles réussites pour toi donc au palmarès. Il y a un beau marathon des Causses, hein, je crois. Il y a le Méribel Trail 2021. Il y a le Trail des Rutaines. Il y a toujours sur la CCC une quatrième place en 2018 et une deuxième place à la Transvulcania en 2019. Comment vient ce défi de la Corse Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Est-ce que ça démarre par tout simplement par un voyage touristique? Comment vous découvrez avec Adrien ces beaux sentiers du GR20? Bah lui, s'il est entraîneur d'équipe de France de trail, c'est des chemins qu'il devait connaître, j'imagine, Annelise.
Ben on a découvert, non, on l'a découvert la course ensemble en fait. C'est vrai que ça fait longtemps que, enfin voilà, on aime voyager, on aime bouger, et c'est vrai que la Corse, c'est pas si loin que ça, et on connaissait pas. Et ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on avait fait notre premier voyage en Corse, et forcément, bah quand on se prévoit un petit voyage en Corse, on s'est quand même mis le GR20 au milieu. Et franchement, je suis vraiment tombée sous le charme en fait de ce GR. On l'avait fait en 5 jours. Donc en autonomie, mais on avait quand même visé les refuges pour être le plus léger possible quand même. Mais on s'était vraiment régalé en fait, et vraiment j'étais vraiment tombée sous le charme de ce sentier parce que on en vante la beauté, mais quand on est sur place, vraiment il est assez incroyable. Et puis il est assez déroutant parce que c'est vrai que ces cailloux, cette technicité, ben elle est vraiment assez surprenante quand on goûte au GR20. Et j'avais vraiment été séduite. Forcément, bon voilà, moi j'en étais restée à c'est vraiment beau la Corse, ça c'est top. Et Adrien en rentrant assez rapidement dit tu sais que quand même
il avait mis les chronos
si
en route.
Si je calcule ça, yeah, c'est, ouais, c'est ça.
Ouais.
C'était un peu ça. Et puis c'est vrai qu'en plus voilà, il y a eu ces années un peu sans compète. Bon, on avait aussi en tête notre projet bébé aussi, donc il y avait moins d'ambition de compétition en tant que telle. Moi j'avais plus trop envie non plus de faire des saisons à 10 compétitions, 15 compétitions par an, où des fois c'est vraiment éprouvant finalement. Donc l'histoire aussi, l'idée d'un projet off m'a un peu germé comme ça. Et bon, clairement, c'est lui qui a eu l'idée, mais c'est vrai que ouais, l'idée me séduisait aussi. Après, ça me paraissait totalement impossible et irréalisable, mais
c'est peut-être l'avantage aussi d'avoir un métier et une vie professionnelle, c'est que tu peux aussi choisir tes défis. C'est-à-dire, tu choisis tes beaux défis sur une saison et tu te dis, bah, je me concentre là-dessus, quoi. T'es pas entre guillemets une athlète professionnelle qui vit au cachet et qui doit se dire, faut que j'aille là, quoi.
Bah, c'est une grande chance, oui, ça c'est sûr. C'est clair que, et puis, alors, ça demande beaucoup de préparation. Après, clairement, les sponsors, ça les a aussi séduits assez rapidement, et c'est vrai qu'on se rendait pas compte non plus de tout ce qui pouvait après tout s'est retombé suite à la Corse. Donc finalement, ouais, ça a été chouette par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'au départ, se dire bah je me consacre une année à ça, oui, c'est sûr que j'ai la chance de me dire bon bah voilà, enfin la course à pied, bien sûr, enfin j'en vis pas, donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que c'est chouette de pouvoir se faire des beaux projets comme ça et que derrière ça suive aussi, quoi. Donc oui, non, c'est clair que c'est une chance aussi par rapport à ça. Ça manque de temps, mais on arrive à faire des belles choses par rapport.
L'événement heureux dans votre vie arrive le 4 juillet 2021, la naissance du petit Faustin. Et donc, on se rend compte que moins d'un an plus tard, tu exploses le record du GR20. Juste resituer pour ceux qui nous écoutent, Johan et Annelise, ce que représente le GR20. C'est donc la traversée de la Corse du nord au sud. Calenzana-Conca, ça fait 170 km le tracé pour établir le record. 13 000 mètres de dénivelé positif. Tout à l'heure, Annelise nous a dit, bon, nous, voilà, pour visiter un peu avec Adrien, on l'a fait en 5 jours. Faut savoir qu'un randonneur lambda le fait entre 10 et 16 jours, hein, voilà, donc c'est quand même hyper technique, hyper compliqué.
Ils étaient pressés.
Des paysages fantastiques, des crêtes sillonnées et des passages à plus de 2000 mètres quand même, Annelise, hein, notamment sur le nord de l'île, hein.
Ouais, il y a des moments où on est assez haut. Alors, on le sent pas à l'altitude. Et puis là, moi, c'était la top préparation, enfin la top condition, il n'y avait pas de neige, mais ouais. Un petit peu avant là, quand je suis allée faire les dernières recos, il y avait quand même encore un peu de passage dans les névés, ouais. Mais bon, ça, c'est le charme de la montagne.
C'est sûr. Alors, le record précédent, daté de 2012, c'était détenu par Émilie Lecomte, 41 h et 22 minutes. C'est ce qui a mis la puce à l'oreille, évidemment, à Adrien, qui s'est dit « Ah, il y a peut-être un truc à faire ». Juste rappeler que le record masculin est détenu toujours par Lambert Santelli, le Corse, en 30 h et 25 minutes. Lambert, qui a fait partie de ton équipe. On va y revenir parce qu'il a été très important, notamment dans ton début de course. Mais parlons déjà de ta préparation, Annelise. Je l'ai découpé en deux parties, plutôt la préparation physique et la préparation logistique. Physique tout d'abord, on le disait, Annelise, beaucoup de travail spécifique, beaucoup de travail de musculation, parce qu'il faut encaisser les chocs du dénivelé, qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein.
Alors, il y a eu ça, et puis l'autre petite contrainte imprévue, c'est qu'il y avait aussi le retour de grossesse.
Bien sûr,
donc forcément,
bah évidemment.
C'est vrai que la prépa n'a pas été aussi... Enfin, d'habitude, une prépa hivernale, ben, c'est ce qu'on disait, c'est beaucoup de pistes, on refait de la vitesse, et même pour un GR, au final, on aurait peut-être aussi aimé en faire plus à ce niveau-là, mais forcément, il y avait l'impact où je ne pouvais pas faire encore du fractionné, d'aller sur la piste vraiment en début d'année, enfin dans l'hiver. Donc c'est vrai que le gros truc aussi, ça a été beaucoup de muscu. Parce qu'effectivement, la résistance musculaire, le dénivelé, c'est pareil, tout ce travail de proprioception, d'essayer de limiter toute cette casse musculaire, ça a été vraiment très important. Et ça, ben, j'ai pu le maintenir déjà pendant la grossesse. Alors, pas avec le poids comme j'ai pu le faire maintenant, mais j'ai fait quand même beaucoup de travail de renfo pendant la grossesse. Et tout de suite après, finalement, j'ai pu reprendre rapidement. Et c'est vrai que la muscu, ben, c'était... deux fois par semaine, voire trois fois juste après, au tout début où je pouvais pas encore courir réellement. Mais sinon, tout l'hiver, ça a été, même jusqu'en avril, en fait, c'était deux séances semaine de muscu avec vraiment des programmes spécifiques. Et c'est vrai que je pense que ça a quand même beaucoup joué dans la réussite aussi, parce que mine de rien...
Et oui,
c'est important.
Ça, bah. Ouais. Même si c'est pas vraiment rigolo à faire, c'est quand même vraiment important et c'est très profitable.
Coach Yodu, justement, Johan Durand, est-ce que tu considères que l'aspect musculation, gainage et renforcement musculaire est plus important pour un trailer qui fait de l'ultra longue distance que pour un marathonien ou un semi-marathonien, par exemple?
Oui, clairement, c'est plus important parce que, comme elle l'a dit, l'impact, c'est les descentes. Hein, ce qui fait mal en trail, c'est de sauter de caillou en caillou dans les descentes ou dans les montées, d'avoir suffisamment de force pour se propulser si on n'a pas les bâtons dans les côtes. Et c'est vrai que il y a une dégradation musculaire qui est liée aussi à la durée d'effort. Hein. Là, on parle de plusieurs heures, de 35-36 heures d'effort contre une heure sur un semi grand max. Donc c'est vachement important. Et c'est vrai que c'est une phase cachée de l'entraînement. On pense que, enfin, et puis nous-mêmes, on aime courir. Et c'est vrai que des fois, on n'aime pas le renforcement. Ouais. On trouve ça ingrat, on trouve ça inutile. On se dit, enfin, voilà, faire du gainage, faire des abdos, faire du renforcement des jambes et tout, on se dit, mais c'est pas utile, mais c'est certainement ce qui est c'est presque plus important. Dans la performance, ça va éviter la blessure et ça va nous permettre d'être plus performants. Donc, en gros, il y a zéro contre-indication d'en faire un maximum.
Juste préciser dans ta préparation, Annelise, que tu as passé quelques temps au Kenya, hein, je crois, en début d'année.
Ouais.
Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'on a fait un hors-série spécial sur le Kenya avec tous les bienfaits, évidemment, pour un coureur sur route. Qu'est-ce que ça apporte à un trailer, alors?
Ben, en fait, c'est génial aussi. Moi, je connaissais pas. Adri a pu y aller parce qu'il avait eu, il avait à un moment entraîné un groupe de trail, de coureurs, de marathoniens là-bas, au Kenya.
Okay.
Et du coup, c'était la troisième fois qu'il y allait. Et voilà, à chaque fois, moi, je pouvais pas y aller. Donc, voilà. C'était l'occasion d'aller faire un voyage aussi entre nous. Et on avait pris aussi des amis là-bas. Et clairement, en fait, le Kenya, par rapport à la course à pied en tant que telle, à la préparation, vitesse, seuil, tout ça, ce qui est génial, c'est clairement, il y a tellement de coureurs, ils sont tellement incroyables
Densité,
que, voilà, ça, c'est indéniable que c'est un plus incroyable. Et en plus, pour le trail, en fait, c'est génial parce que à Iten, on est au contrefort de la vallée du Rift et des sentiers, il y en a partout, quoi.
Ouais, remarque,
et c'est vrai qu'on a pu aller faire des super sorties trail dans du single avec du super dénivelé en partant d'Iten. Donc non seulement c'est génial pour la culture course à pied, pour les cadres d'entraînement, mais pour le trail, on est loin de ne rien avoir. Et petite parenthèse, en plus, là où on était, du coup, c'était avec les coureurs de Julien Lyon. Et c'est du coup un de ces coureurs qui a gagné Sierzinal cette année. Donc pour le trail, ils sont loin d'être d'être loin
ça commence,
de tout ça.
Ils commencent à arriver. Il y a quelques Kenyans qui arrivent sur le trail, ouais.
Ouais. Donc non, c'est.
Même en course en montagne.
Eh bien, c'est sûr, de toute façon, avec les capacités physiques et la densité là-bas, c'est vrai que s'ils s'y mettent, les efforts sont différents. Mais parce que là-bas, c'est aussi le combo, évidemment, altitude et dénivelé, quoi. Là, t'as les conditions idéales pour te préparer, quoi. T'as tout ce qu'il faut.
T'avais tout.
C'est ça. Et puis ils ont du sentier, ils ont vraiment de quoi faire et franchement ça a été une superbe surprise là-bas aussi parce que c'est clairement pas développé le trail, on sait pas ce que c'est, mais il y a vraiment vraiment plein de choses à faire, ouais. Non, c'était top, c'était donc, vraiment génial, ouais.
Parlons du côté logistique parce qu'évidemment un exploit comme celui-là se planifie et là on peut rendre hommage à Adrien qui t'a vraiment mis dans des chaussons hein, pour tout ce beau défi. Il y a passé des heures, des jours et des nuits entières. Déjà tout simplement, combien de fois vous êtes allé faire du repérage en Corse sur les différents sentiers?
En tout, je l'ai fait trois fois. On est allé trois fois et en gros, j'ai fait trois fois le GR.
D'accord. Donc, tu as fait trois fois les 170 pas tout le temps, hein, mais... kilomètres.
Trois fois en fractionnant.
Mais pas en fractionnant, bien sûr. D'accord. En fractionnant.
Pour repérer.
Mais
pour,
voilà, parce qu'il fallait préparer. Mmh. Ouais.
Parce que j'ai vu que Adrien, tu avais préparé un plan en 7 étapes, alors qu'habituellement, on part entre 12 et 16 étapes, hein, je crois. Vous aviez raccourci le nombre d'étapes. Les étapes, c'est entre les ravitaillements, évidemment.
Ouais. Alors oui, d'un côté, c'est pas si simple de faire de fractionner plus non plus parce que la Corse c'est pas si accessible que ça. Donc en fait, pour eux, pour tout ce qui était l'assistance au point de ravito, mine de rien, ça a été je sais pas combien de kilomètres ils ont fait en voiture, mais c'est très compliqué parce que tout n'est pas accessible. Ah, oui. Donc effectivement, on avait fractionné en 7 étapes et ça a été super important même psychologiquement parce que moi clairement, j'avais cette vision là de mes relais et chaque fois d'avoir un copain différent et c'était hyper important en fait de fractionner en différentes parties comme ça. Donc c'était aussi pour le côté logistique où fractionner plus ça aurait été compliqué parce qu'en fait les autres refuges ne sont pas accessibles,
eh oui,
en tout cas par en voiture quoi.
Une fois qu'on a passé le col de Vidzavone qui sépare la Corse du Sud à la Haute-Corse, c'est vrai que niveau accessibilité en voiture c'est compliqué, mais tu l'as dit, c'est peut-être le point clé de ta réussite, c'est cette composition d'équipe. Et là, évidemment, vous avez fait de l'excellent travail en misant à la fois sur des proches et des amis, hein, notamment, je crois, ta sœur qui a gardé ton fils pendant toute l'épreuve, avec tes amis vétérinaires qui ont géré les ravitaillements, mais aussi en t'entourant de spécialistes. Lambert Santelli, on le disait, qui est le recordman masculin, qui a battu le record de François Denne l'année dernière, qui t'a aidé, qui était là. Vous aviez une dream team là pour réaliser ce défi, Annelise.
Ah, mais complètement. Et franchement, c'est grâce à eux qu'on a réussi à faire cette traversée. Mais oui, clairement, c'est super important. Alors déjà, de nos copains Corse, c'est clair que c'est les acteurs numéro un. Alors il y a eu Lambert, il y a eu Guillaume, il y a eu Augustin, il y a eu aussi des copains du club d'Ajaccio. Et clairement, Guillaume et Lambert, c'est les grands messieurs du GR. Ils l'ont, Guillaume était recordman avant, Lambert l'a succédé et ils le connaissent par cœur, ils connaissent leur île par cœur. Et puis, mine de rien, la Corse, c'est pareil, faut la respecter, faut respecter. C'est non seulement il y a cette île de beauté, mais il y a aussi cette île de caractère, on va dire, et c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer parce que mine de rien, c'est pas négligeable et c'est super important. Et de pouvoir comprendre, les connaître et respecter ce lien avec les gardiens des refuges, avec le parc. Ça aussi, c'est des liens qui ont été hyper importants dans la préparation. Et Guillaume et Lambert nous ont permis clairement de nous intégrer aussi dans tous ces acteurs. Et en plus du côté expérience, parce que Guillaume il a été dans toutes les tentatives de record, donc il les connaît par cœur, sait comment chacun a pu gérer ou mal gérer. Donc ils ont été, clairement, et c'est les clés de voûte du projet. Et sans eux, ça aurait été très compliqué.
J'ai quelques questions à te poser, tout de même, Annelise. Moi, ce que je me suis demandé quand j'ai suivi un petit peu ton reportage, je me suis dit, dans quel état de stress tu étais au départ? Parce que c'est quand même... il y avait des journalistes, évidemment, on s'attendait à une grande performance, mais est-ce que tu t'es senti, entre guillemets, redevable de tous ceux qui s'étaient déplacés pour toi? Ça peut paraître bizarre comme question, mais est-ce qu'on a ce sentiment-là quand tout le monde est au petit soin pour soi? Est-ce qu'on se dit, quand même, j'ai pas le droit de me manquer parce qu'ils sont tous venus pour ça? Là, ça me met une pression supplémentaire.
Oui, clairement. Ouais. Franchement, c'est dur parce que une course, en fait... on a le stress, bien sûr, mais on se le doit finalement qu'à soi-même.
Bien sûr, c'est pour ça que je demande
ça. Et à son coach,
mais
je veux dire, on se loupe, tant pis, on se loupe, c'est pas grave. Mais là, effectivement, il y a tellement de... On a tellement, en fait, mobilisé entre les personnes qui se sont déplacées, qui se sont préparées, qui ont mis beaucoup d'efforts aussi, qui ont mis des investissements aussi financiers. Ça a été un projet quand même relativement lourd. Et c'est vrai que la pression, elle est quand même vraiment palpable. Et au début, c'est dur. Alors, Ça a été, ce qui a été bien, c'est que, enfin, finalement, c'est que j'ai eu 15 jours. En fait, mon dernier bloc sur l'île, ça a été 15 jours avant de revenir. Et du coup, après, je suis revenue travailler et finalement, ça m'a un peu découpé tout ça. Je m'étais un peu éloignée de pareil, tout ce qui était presse, tout ça. Ben, c'était clairement Adrien en fait qui gérait tout ça et moi, j'avais juste, bon bah tiens, faut que tu répondes à ça. Mais j'étais vraiment en fait, il m'a beaucoup protégée aussi pour ça et ça, ça a été super bien parce qu'en fait, je me doutais pas qu'il y avait cette effervescence. C'est clair, cette effervescence derrière. Et puis après, oui, c'est sûr que quand on est arrivé sur place, le point positif aussi, c'est qu'on est parti relativement vite. Enfin, ça a été le départ. On est resté voilà un jour et demi à cogiter, puis après on est parti. Et finalement, ça a permis de minimiser vraiment cette phase d'attente qui aurait été compliquée, je pense, à gérer. Mais non, ouais, le dimanche, c'est dur.
Alors,
c'était pas simple à gérer.
J'imagine, tu avais hâte que le départ soit donné. Précision, depuis le 1er janvier, il y a un nouveau règlement d'ailleurs. L'accompagnement du coureur ne peut pas excéder 2 personnes. Sinon, tu es disqualifié. Oui. Donc, vous ne pouvez pas être plus de 2 autour de toi et ça complexifie évidemment les choses. Ou alors, c'est peut-être un avantage. Hein, c'est ce que tu avais déclaré aussi parce que tu étais systématiquement entouré de proches. Et raconte-nous justement le début parce que tu pars avec Lambert Santelli. Il a les consignes d'Adrien. Il va un petit peu plus vite. Mais du coup, le deuxième pacer, lui, est victime d'une fatigue musculaire, je crois, et doit arrêter, hein, Annelise.
Ouais, c'était dur parce qu'en plus Flo qui était avec nous, ben c'est un super coureur et plutôt sur route. Effectivement, c'est un très bon coureur sur route, sur 10 et semi. Et c'est vrai que il est très bon en trail, mais je pense qu'il s'attendait pas non plus à cette technicité. Et ouais, c'était un peu triste pour lui parce que moi je me rendais pas trop compte et en fait Lambert au deuxième ravito me dit écoute, je vais prendre ton ravito. Et il me dit, bah, j'ai dit, non, t'inquiète, il y a Flo qui est là, il n'y a pas de problème.
Il
me dit,
mais il l'a
Flo,
senti, quoi.
Il est pas très bien, ouais. Et effectivement, là, il commençait à être pas bien, il est tombé dans la descente et du coup, on a dû le laisser avec Cyril, le photographe, et puis les gars de Mousse.
Ah, j'ai cru que vous l'aviez laissé manger par les loups.
Dans la montagne.
Non, on a quand même.
C'était un cadeau empoisonné.
Ouais. Non, mais c'est dur de le laisser. Enfin, franchement, au début où, en plus, voilà, c'est, bah, comme, il s'était investi à fond et c'est vrai que ça fait mal au cœur de le laisser là. Et puis, donc, il y a eu Flo.
Du coup, personne n'a pu le remplacer.
Bah, non, du coup, non. C'était pas Flo, ouais, enfin, parce qu'en fait on était à Caruso, c'était un peu perdu, il y a quand même beaucoup de marches avant d'arriver au refuge, donc les journalistes, enfin le photographe et 2 vidéastes étaient montés là-haut, mais à pied quoi.
Bon, après,
donc il est descendu.
Soyons honnêtes, Lambert a fait le boulot, il a tout porté, il a assuré l'allure et il te laissait boire alors que lui ne buvait même pas. Voilà,
mais
donc,
c'est clair, du coup il a pas bu Lambert. Il a été énorme quoi. Il me le disait pas, moi je lui disais mais bois, non, il disait rien, mais ouais,
c'est magnifique,
il a rien dit.
Hein. Quel cadeau en tout cas.
Il a été super.
Ouais. Alors parlons du passage compliqué que tu as connu. Hein, il y a eu un passage un peu plus délicat entre minuit et 6h quand tu repars en fait de Vidzavon, hein, quand tu quittes toute la partie nord. Là, tu te mets à avoir froid, tu te dis ça va pas très bien, et là, c'est le petit coup de mou de l'aventure, quoi, Annelise. Hein.
Ouais, ça a été assez compliqué à gérer. En fait, j'étais plutôt bien dans la descente. Voilà, arrivé à Vidzavon avec Guillaume, on avait géré, enfin, on était bien. Après, on commençait à être fatigué parce qu'on commençait à parler d'un peu n'importe quoi, mais ça allait bien. Et en fait, je pense je me suis peut-être un peu trop arrêtée. Alors, c'est dans le plan de route de s'arrêter 20 minutes à Vidzavon. Mais au final, j'ai essayé de manger. Ça a été compliqué. J'ai mangé un peu de soupe, mais voilà. Et c'est vrai que là, j'ai pris un... Mais je pense que c'était fébrile, en fait. J'avais froid, j'avais chaud, j'avais froid. C'était très bizarre. Et donc, bon, la digestion a été un peu compliquée. Et en fait, après, c'est la fatigue qui a pris le relais. Et j'avais vraiment quelque chose que je ne pensais pas, mais vraiment un besoin de dormir. Et ouais, c'est vrai qu'on ça, on l'avait sous-estimé. Parce qu'on s'était dit, il n'y a qu'une nuit. Et bon, une nuit dehors, ça va le faire. Voilà, j'ai déjà fini des courses tard. Avec mon boulot, ben, j'ai des nuits des fois agitées. On s'est dit que ça va le faire. Et sauf qu'en fait, je tombais de sommeil. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est la seule partie du GR où j'étais avec des amis, mais des amis un peu moins proches que ce que mes amis de
ouais,
toujours,
sûr,
en fait, qui, ouais, m'ont accompagné dans mon. Et c'est vrai que du coup, ben, ils osaient pas trop. Ils avaient pour consigne de pas me laisser dormir parce qu'ils se pensaient pas que ça allait arriver. Et du coup, ils n'ont pas osé me laisser dormir. Et c'est vrai que je leur disais, mais Guillaume, il m'a dit que je pouvais dormir un peu.
S'il vous plaît.
Et du coup, ça a été un chemin de croix. Parce qu'en plus, là, pour le coup, c'est la partie roulante. Clairement, par rapport à en reco, j'ai mis quasi une heure et demie, deux heures de plus que ce que j'avais fait en reco. Et par rapport à mes estimations, j'en ai perdu une heure. Alors, j'avais de l'avance. Donc, ça a remis les cartes par rapport à nos estimations. Mais autant, voilà, pendant les reco, je l'ai fait trois fois, cette portion. Je me suis dit, bon, mais ça doit passer. C'est vraiment la portion où, normalement, ça doit être roulant. Et alors là, on ne se sent pas avancé. C'était vraiment dur à gérer.
C'est la difficulté sur les ultras.
Et avec le recul, si tu t'étais posé, tu te dis pas si tu t'étais posé 10 minutes
Peut-être. Alors après, voilà, c'est difficile
de passer pour plus tard.
Peut-être que ça aurait été bénéfique. Et du coup, j'ai dormi après en changeant de relais où je me suis retrouvée, je leur ai refait le coup encore avec deux copains. Du coup, je leur dis non, mais là, faut que je dorme.
S'il vous plaît.
Laissez-moi dormir. Tu
et
connais
là,
ça, Johan.
Du coup, on s'est donné 5 minutes. 5 minutes, c'est pas grand chose, mais du coup, j'ai dit bon, allez, on essaye. Bon. Et là, pour le coup, ça m'a fait énormément de bien. Alors, je sais pas si ça aurait été, s'il allait le faire avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était une drôle d'expérience, ouais, cette sensation de s'endormir pendant l'effort, c'était assez bizarre.
Avec cette décla donc d'Adrien qui dit effectivement à un moment tu t'es dit tu vois un caillou, tu t'es dit je vais dormir là, ton pacer a dit non, on dort pas là, tu as dit bon OK, on dort pas là. Et du coup,
c'est un peu ça. Ouais.
Voilà. Et donc évidemment, ça se passe mieux au début de matinée et puis tu parviens à terminer la course. À quel moment tu prends conscience que le record va être explosé? Est-ce que tu te tiens au courant ou est-ce que non, tu sens quand même au petit matin que tu vas tout exploser?
Alors, non, en fait, à aucun moment je me suis dit qu'on arrêtait. Ça a été chouette parce que franchement, je crois que jamais j'ai baissé les bras, même si ça a été dur, j'ai pas eu ce petite phrase dans ma tête. Après, clairement, moi, je n'ai jamais regardé la montre. J'ai commencé à la regarder quand, waouh, je me suis dit, purée, elle fait 150 km, les gars, j'avais jamais fait ça. Mais, et c'est bête, mais je ne la regardais pas. Et je me souciais pas, en fait, du temps. Alors après, je savais qu'on était dans les temps et je savais, j'étais lucide de ce qu'on faisait, mais je m'en souciais pas vraiment. Et du coup, c'est vrai que j'essayais aussi de, voilà, comme toute la partie nord, par exemple, où j'avais des super sensations, ça se passait super bien. Guillaume qui me disait, écoute, là, on avance vraiment vite. Quoi. Et je disais, mais bon, ça va péter de toute façon. Donc, on profite de ce qu'il y a à prendre, on verra, et ça risque de péter, mais ça tiendra peut-être, on verra. Et du coup, c'est vrai que j'avais un peu cette naïveté, je me suis jamais dit, on arrête, de toute façon, ça, fallait aller au bout. Après, forcément, à Bavel, où il reste plus grand chose, où là oui, j'avais ma sœur, elle était en pleurs, je me disais que c'était possible, mais je m'interdisais en fait de cette montée d'émotion où fallait encore rester lucide. Donc vraiment jusqu'au bout et même vraiment jusqu'à la fin, je me suis dit non, il faut pas craquer, enfin faut se dire que on reste sérieux et il faut pas se laisser submerger par le fait que ça y est, ça va le faire quoi.
Et puis
mais c'est pas simple, ouais.
c'est la plus belle image et on en termine sur cette magnifique aventure, mais c'est l'émotion de l'arrivée avec Adrien qui te pèse justement pour la fin et puis les retrouvailles avec le petit Faustin que tu as vu deux, trois fois sur le parcours, mais que là, tu peux enlacer dans tes bras. Ça, c'est le moment fort de ta vie de sportive, même, parce que le record est absolu, mais en plus, vous partagez ça tous les trois. Quoi.
Oui, je crois que c'est ce qui est chouette, en fait. Je pense que c'est ce qui résume finalement, j'aurais peut-être dû répondre ça à la question de pourquoi courir. Non, c'est vrai qu'on vit des choses qui sont assez incroyables. Alors, le petit Faustin, je pense qu'il a rien compris de ce qui s'était passé, c'est même sûr. Mais quand même, c'est assez drôle parce que je pense qu'il, pour lui aussi, il y avait des émotions de folie. Et d'ailleurs, il était épuisé après. Enfin, il y a eu vraiment, il a absorbé pas mal de choses, ouais. Et c'est vrai que c'est assez incroyable et de se dépasser, d'aller au-delà de tout ce qu'on, d'arriver à faire. D'affaire des défis fous qu'on se met, quoi. Ah oui. Alors que,
et la chance de vivre ça avec tous tes proches autour de toi, c'est ça. Qui est fantastique.
Ouais.
C'est sûr.
Et ça, vraiment, c'est vrai que c'est des émotions qu'il y a peu de choses qui les procurent aussi fortes comme ça.
Yo, ouais, tu veux le dire.
Le sport, mais c'est sûr que le sport partagé comme ça, en famille, avec les amis, sur des projets comme ça qui sont longs, en plus, c'est des projets de plusieurs mois, plusieurs années. quand t'aboutis à une telle réussite, bah c'est ah. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux quoi, il y a pas
quand
mieux.
Je vais te serrer dans mes bras quand t'auras fait médaille ouais. à 2024 à Paris,
c'est
voilà,
ça. Ça après avoir passé 2 ans de podcast à se dire des bêtises pendant 2 ans,
ça va être fantastique, j'ai hâte. Annelise, tu restes avec nous, on passe tout de suite à la séance
RMC.
La séance.
Et on accueille nos deux membres de la Dream Team RMC Running, Julien et Louis. Salut les gars.
Les champions.
Salut.
Ils sont là. On est ravis de vous retrouver. J'explique à Annelise rapidement. Donc Annelise, nous sommes partenaires du marathon Niskan qui aura lieu le 30 octobre. On a monté un magnifique package avec le coach Johan Durand. On leur a fait gagner le dossard. On leur a fait gagner une tenue RMC Running. Et leur préparation de 10 semaines est encadrée par Olivier Gaillard, un coach fédéral, et par Johan Durand, s'il vous plaît. C'est pas mal ça, Annelise, quand même, hein?
Ouais, c'est chouette. C'est alors, un beau cadeau.
Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont des objectifs différents. Julien va découvrir la distance du marathon. Louis vise plutôt le moins de 3 heures. Les gars, on est en fin de semaine 3. Comment ça va déjà, Julien? Comment tu vas? Est-ce qu'il y a des courbatures un peu dans les jambes?
Ils nous maudissent.
C'est ça.
je t'ai maudit mercredi quand j'ai fait ma séance de fractionné, ouais, effectivement.
C'était quoi la séance alors?
La séance était du 8x1000 à 4,20.
Allez, donc, bien Johan.
Je t'en ai donné 10 Benoît, donc tu vois,
oui, c'est vrai.
On a été plus gênés, on a été plus gentils avec eux.
C'est vrai. Bon, mais elle est bien passée Julien, tout s'est bien déroulé?
Ouais, j'ai galéré.
Bon. Et il te reste la sortie longue sur ce week-end? Ouais.
J'ai encore la VMA demain là, avec le 8x45.
Ah, 45, il adore 45. Ça, Johan. Ouais.
Je préfère ça que le fractionné long.
Bah oui, c'est plus court, coquin.
Mais bon, pour le marathon, je veux pas te faire peur, mais c'est ce qui est important, ça reste le long. Hein.
Ne les ferai pas, il va découvrir le marathon. Louis, comment s'est passée ta semaine, toi, Louis, alors?
Eh ben plutôt bien, des petites séances de côte en début de semaine, après 20 x 400 mardi, donc un petit peu de VMA court.
En combien les 400, hier, toi j'ai... tu vises moins de 3 heures?
Et les 400 en moins d'une 20, donc autour bien. D'une 18.
Ah ouais,
une
bravo.
18 aux 400, et hier j'ai fait 15 x 1000 du coup.
15 fois
donc,
J'ai fait 15 x 1000 avec une petite récup de 1 minute. Donc, ils ont fait plaisir et après, ça s'est bien passé. Je salue d'ailleurs mes copains d'entraînement avec qui
j'ai
le plaisir de faire ces séances et j'avoue que ça m'aide pas mal à avancer.
Et ouais, c'est important ça de aide. Partager ça, de faire ça. Bah, voilà, on l'a entendu avec Annelise, l'importance de l'équipe autour de soi pour réaliser des performances. Annelise, on va se tourner vers toi dans une seconde parce que j'aimerais que tu nous guides justement, toi qui mènes une triple vie, vétérinaire, mère de famille, sportif de haut niveau. Faut nous donner des conseils. Juste, je crois, Julien, que tu avais une question pour le coach Yodu parce que tu aimerais bien faire une compétition avant le marathon, hein, Julien.
Oh, j'aimerais bien faire une compétition, c'est un grand mot, mais j'ai un semi qui est le 25 septembre. Là.
Ouais.
Du coup, 5 semaines avant le marathon de Nice. Du coup, est-ce que je peux le faire?
Et il demande l'autorisation à Johan.
Tu peux le faire et tu dois le faire à fond.
Ah, à fond.
Bah, à 5 semaines, tu peux. Hein.
D'accord.
À 5 semaines, autant les semis qui arrivent dans les 3 dernières semaines, le semis qu'on fait à 3 semaines, généralement, on va le travailler à l'allure marathon pour avoir son temps de passage pour le marathon parce qu'on est dans un gros bloc de travail. Là, à 5 semaines, il sera en milieu de préparation, la fin du premier gros bloc de travail là avec les 3 premières semaines. La semaine d'un peu de régénération, il fait son semi un peu rapide, un peu à fond, et puis derrière, il récupère 2-3 jours et il repart sur un nouveau bloc de 2 semaines et demie, plus après bah, les 2 semaines un peu plus cool, et puis il sera au marathon. Mais ouais, non, ça peut se faire, hein. Vas-y, hein. Fais-toi plaisir.
Allez,
c'est bien
vas-y à bloc, hein.
De casser la prépa un peu par une compétition, de remettre un dossard quand on n'a pas l'habitude de courir en compétition et qu'on a peur d'avoir le stress le jour J. C'est bien de répéter un peu ses gammes avec un semi quelques semaines avant pour remettre un dossard. Manger 3 heures avant, aller faire ses échauffements, ses étirements, ses gammes, enfin la chambre d'appel, attendre le coup de pistolet, tout ce stress et tout, c'est bien de le répéter, ouais.
La chance, Julien, t'as le bon de sortie du coach. Voilà, ouais. Nickel.
Ouais, c'est cool. Du coup, je fais la même semaine, je garde ma semaine de prépa quand même, derrière.
Alors, eh ben, il faut peut-être adapter les trois derniers jours, hein, si tu veux le faire, s'il faut le faire à fond, les cinq derniers jours, même la séance du mardi doit être un peu adaptée, mais sinon tu gardes tout jusqu'au mardi, et le mardi t'adaptes, et après, ouais, il faut faire du plus cool pour arriver un peu frais quand même sur le semi, ouais.
Bah voilà. C'est la réponse à ta question. Louis, profites-en. Est-ce que tu as une question pour le coach ?
Non, j'ai pas de question pour le coach, mais par contre, je vais féliciter Anne-Lise que j'ai vraiment suivi sur cette traversée du GR20. J'ai fait mes études avec sa sœur Mylène, donc du coup,
d'accord.
Et encore plus, je vais pas balancer de dossier.
Mais c'est dingue ça,
sur la famille.
Ah non, mais tu vas pas t'enfuir comme ça, on veut un dossier maintenant, tu l'as annoncé, attends.
Non, il n'y a pas de dossier, mais en tout cas, du coup, j'avais bien suivi toute la famille au complet et surtout une performance XXL.
Bah évidemment. Et Anne-Lise, je veux pas trahir le secret, mais Louis avait mis l'athlée entre parenthèses quelques années pour faire la fête tous les soirs lorsqu'il était étudiant. Donc peut-être que ta sœur était dans le lot. Tu vois, c'est ça le truc.
Bah ça, ça c'est bien possible.
Est-ce que c'est ta sœur qui a gardé ton fils pendant l'exploit ?
Oui,
ah,
c'est
plus,
ma sœur.
Ouais. Voilà, excellent.
J'ai qu'une petite sœur.
Ah, le monde est petit, c'est dingue. Bon, alors c'est justement, rigolo. C'est intéressant de parler de ça avec vous trois et avec vous quatre, même toi, coach Yodu. Comment on fait pour gérer son temps au quotidien, Madame Rousset-Séguré, parce que tu mènes donc cette triple vie. On rappelle que Louis est chirurgien dentiste et que toi, Julien, tu bosses dans l'aide à la personne, hein, c'est ça, tu aides des personnes handicapées. Hein, c'est ça, voilà. Donc vous avez des métiers, vous aussi, chronophages qui prennent beaucoup de temps. Anne-Lise, quel est ton secret ? Comment tu optimises ton temps, justement, pour que tout rentre ?
Beaucoup me posent cette question. Bon, c'est pas simple. C'est vrai que il faut vraiment une organisation de folie. Alors, clairement, moi, ce qui m'aide à beaucoup, c'est sûr que c'est le fait que c'est Adrien qui m'entraîne et qui est au quotidien avec moi. Alors, c'est sûr que on a un boulot qui est plus que chronophage, avec des grosses journées de travail. Et en plus, moi, il est un petit peu physique parce que je vais en plus en rural. Ce n'est pas que en canine. Donc, il y a un côté aussi où des fois, je rentre assez rincée parce que j'ai forcé comme un âne dans la journée. Donc, c'est sûr que c'est pas simple à adapter. Alors, maintenant que je suis en Haute-Savoie, le gros avantage, c'est que j'ai quand même mes collègues qui ont cette conscience de l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Donc, c'est plus facile. Je travaille, on va dire, un peu plus raisonnablement, même si je suis à temps plein, en fait. Mais c'est plus ancré dans la culture, ce qui n'a pas toujours été le cas dans mes boulots d'avant, où c'était beaucoup plus complexe. Après, donc du coup, j'arrive à peu près à finir à l'heure. Donc, clairement, concrètement, je m'entraîne entre midi et deux. Donc, c'est court, le temps. Mais c'est de la séance de qualité ou un petit footing quand je le double d'une séance de muscu le soir.
D'accord.
Mais concrètement, voilà, la semaine quand je travaille, ben c'est du fractionné entre midi et deux. Et voilà, on mange vite fait et on se prend une douche vite fait et puis voilà, on enchaîne après vers le boulot. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'adaptations parce que j'ai Adrien qui est là. Après, il faut avoir un grand coach qui est bien, voilà, qui est conscient aussi des contraintes professionnelles qu'on peut avoir. Et du coup, ben, il y a parfois de la réadaptation parce qu'il y a eu une garde agitée et qu'il a fallu rééquilibrer tout ça. Donc, c'est une organisation, tout se fait. Clairement, l'entraînement, on arrive à le caler. Même avec un bébé aussi, c'est pareil, on s'organise et on alterne la garde et on y arrive à s'organiser. Après, c'est plus la partie repos et là, je pense que je suis pas le très bon exemple et j'aimerais avoir une recette un peu meilleure par rapport à ça parce que c'est sûr que caler le repos dans tout ça, c'est plus complexe.
Alors,
mais s'entraîner, on y arrive.
Les clés du coach Yodu, désormais, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on repousse les caries une semaine, du coup, pour Louis ? Comment on fait ?
Non, mais ouais, c'est une question d'organisation, de planification et de logistique, j'ai envie de dire, presque. Je sais pas, par exemple, on a que 45 minutes et on est à la maison, bah, pourquoi pas aller acheter dans un magasin de sport un Swift Ball, avoir un step et trois poids, tu vois, et plutôt que d'aller perdre le temps à aller à la salle de muscu, bah, faire son propre renfo à la maison avec deux trois bricoles, on arrive toujours à bricoler, à placer un footing par-ci par-là. C'est vraiment essayer de maximiser le temps et de faire en sorte que de perdre le moins de temps possible. Et après, le plus important, c'est l'échange avec avec l'entourage. Hein. Comme l'a dit Anne-Lise, c'est si vous partez sur un objectif d'une prépa marathon, il faut que votre femme ou votre mari soit d'accord et qu'elle dise bah ok, pendant les trois mois, ces trois mois-là, c'est pour toi. Je vais m'occuper des enfants, je vais faire en sorte que tu sois bien. Je t'accompagne, je t'encourage, on vit pour toi et tout ça. Et après, bah il faudra qu'il y ait un retour, bien évidemment, dans l'autre sens plus tard. Mais c'est vrai que c'est l'entourage a un rôle important, que ça soit l'entraîneur, le mari ou les amis, de comprendre pourquoi la personne fait cette démarche là et une fois qu'elle a décidé, bah après il faut qu'elle y aille à fond, quoi.
Voilà, donc en fait le meilleur conseil, c'est d'être bon en égo dans l'entourage familial.
C'est exactement j'ai bien ça compris. Ouais, c'est presque ça.
Parfait. Il faut être bon négociateur. À vous de jouer, Julien et Louis, hein, du coup. À vous de jouer, les gars.
C'est ça.
Bon, les gars, je vous remercie d'avoir été là. On vous dit à bientôt. Évidemment, on vous suit jusqu'à Nice-Cannes. Le marathon, c'est le 30 octobre, évidemment. Et on ne vous lâche pas jusqu'à la fin. On espère que vous allez tout casser, Louis, sous les 3 heures. Et Julien, que tu vas arriver au bout en prenant beaucoup de plaisir. Merci, les gars. À bientôt.
Merci à vous.
Et on passe Bonne prépa, bon marathon.
Le bon plan d'Ossard, tout de suite.
RMC.
Le bon plan d'Ossard.
Donc évidemment, l'opération Nice-Cannes continue. On a eu beaucoup de candidatures. Les 40 gagnants ont été nommés, mais il y a quelques forfaits. Donc il y a des ultimes Ossards disponibles. Si vous voulez candidater, vous allez sur nos réseaux sociaux. Par ailleurs, un nouveau défi proposé cette semaine, Johan et Anne-Lise. C'est là pour la bonne cause en plus. C'est le dimanche 25 septembre dans le domaine national de Saint-Cloud. Une course qui s'appelle Enfants sans cancer. C'est au domaine national de Saint-Cloud. On en avait parlé de cette association évidemment avec Nicolas Brumelot qui est le patron, le PDG de Mr. Fly et qui court pour cet asso plus de 10 marathons par an. Et bien voilà, la course est organisée donc le 25 septembre. On en parle avec Maxime qui est le responsable communication. Salut Maxime.
Bonsoir, vous allez bien?
Bah oui, et toi alors, comment ça va à quelques jours de l'événement? Parce que ça vient vite hein, finalement, c'est dans 15 jours.
Oui, ça arrive très vite et tout va bien pour le moment. On continue de mobiliser et de collecter un maximum de fonds pour la recherche.
Bon, eh ben écoute, on est ravis de vous donner un peu de visibilité. Est-ce que tu peux présenter la course en quelques mots, du coup?
Oui, très bien. La course, en fait, c'est une course qui a lieu chaque année depuis 2012, qui réunit des milliers de coureurs qui se regroupent au domaine national de Saint-Cloud. Et en fait, depuis 2021, vous avez aussi la possibilité de courir en connecté. Donc, en fait, peu importe de là où vous êtes en France, vous pouvez vous mobiliser contre le cancer des enfants. Les participants, ils ont le choix soit de courir ou de marcher 5 km quand ils sont à Saint-Cloud ou de courir 10 km. S'ils sont en connecté, ils ont la possibilité d'avoir accès à une plateforme avec des animations pour qu'ils puissent aussi interagir avec Saint-Cloud. Et pour participer, bah, il vous suffit d'aller sur le site www.enfantsanscancer.com, de vous inscrire, de collecter 200 euros et l'intégralité de ces fonds est reversée à la recherche contre le cancer. Voilà. C'est ça un peu la particularité de cet événement. C'est que 100% des dons sont reversés à la recherche.
Mais c'est ce que je trouve génial, moi, dans votre démarche, c'est qu'évidemment, on doit collecter, chaque participant doit collecter au moins 200 euros, donc dans son entourage ou les financer lui-même. Mais voilà, l'intégralité de la somme est affectée à des programmes de recherche. Hein, donc, on rappelle ce chiffre qui est quand même tout de même effrayant, 2500 enfants et adolescents diagnostiqués d'un cancer chaque année. Donc, aider la recherche, évidemment, c'est une bonne cause. Et puis, on précise d'ailleurs, Maxime, que ceux qui ne sont pas forcément parisiens ou franciliens peuvent découvrir le domaine de Saint-Cloud qui est absolument sublime, hein, Maxime.
Oui, le domaine est vraiment un super endroit. L'événement est festif et familial. Donc il faut pas hésiter à venir participer avec nous le 25 septembre. C'est un super moment de joie et de bonne humeur.
Exactement. Et moi, je rappelle rapidement ce qu'est Imagine Fom Margot. C'est donc une association qui a été créée en 2011 par les parents de la petite Margot, qui malheureusement est décédée d'une tumeur au cerveau à l'âge de 14 ans. Et pendant sa maladie, ils ont découvert que la recherche était essentiellement axée sur les cancers des adultes, pas sur les enfants. Donc c'est ce qui les a incités à développer la recherche et à créer un fonds pour lutter contre ces maladies qui touchent les enfants. Il n'y a rien de plus ingrat, évidemment, Maxime, que d'un cancer qui touche des enfants. Il n'y a rien de plus terrible dans la vie, évidemment. Merci, Maxime, d'avoir été avec nous. On précise qu'on fait gagner 3 dossards. Hein. Voilà, donc merci à toi, Maxime. Et puis, si vous vous êtes intéressé, bah, vous laissez un commentaire, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Pas besoin de financement cette fois-ci, mais l'important, c'était de mettre la course à l'honneur. C'est ça, Maxime ?
Oui, c'est ça. Merci beaucoup.
Bon, merci Maxime et à bientôt. Bonne course à vous.
À très bien.
On espère que vous aurez du beau temps, surtout sur cette fin septembre, le 25 septembre, dans le domaine national de Saint-Cloud. Oh, toujours beau, on va pas se mentir. Notamment sur cette fin de semaine, c'est pas forcément le cas. Mais bon, si c'est pour la bonne cause, vous pouvez aller prendre la boue un peu, c'est pas grave s'il pleut. Annelise, merci beaucoup d'avoir été là. On a passé une heure passionnante avec toi. J'espère que tu t'es régalée d'ailleurs.
Merci à vous. C'était chouette.
Merci.
On te souhaite bon courage pour tes prochains défis. Dès qu'il y a un record qui tombe, tu es la bienvenue, hein, évidemment.
Et puis, merci, merci.
On a toujours cette tradition, on demande la musique que tu écoutes quand tu cours, et évidemment, tu as choisi une musique corse. Voilà. tu t'en doutais. Voilà. Tu écoutes ça quand tu cours.
Parfait.
C'est bon. Voilà. Bon, elle est bien là. C'est Minevogu Vitalba. Voilà. Et moi, je me suis permis, Annelise, en pleine préparation du marathon de Londres et pour toute notre team RMC Running, de rajouter un son un peu plus punchy pour les séances de fractionné. Donc, c'est mon petit conseil de la semaine, Maître Yodu. Voilà ce que j'écoute quand je fractionne avec tes séances. Ça s'appelle Chami and Martin Orger, The Calling. C'est pas mal ça, écoute. Là on est bien là quand même hein,
là,
sur la piste.
Là on y est.
Bon voilà, merci beaucoup Annelise.
Envie de reprendre.
Merci à vous.
Merci Annelise, à bientôt en tout cas dans RMC Running.
À bientôt et bon marathon.
Merci ça coach Yodu, hein, on se tient au courant.
Merci à tous.
Hein. Tu me lâches pas hein, jusqu'au bout. Hein.
Jusqu'au bout.
Allez, merci. Et évidemment, on rappelle ce conseil toutes les semaines, Johan. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.